RTS La Première présente Mystifica Science, un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques, avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini. Ce n'est pas sans prendre quelques risques que l'agente Leslie définit la fusion froide comme une mystification scientifique. Aujourd'hui encore, certains scientifiques tout à fait respectables travaillent sur ce thème qui rappelle un peu la pierre philosophale de l'alchimie. La fusion froide permettrait en effet de produire des quantités gigantesques d'énergie avec presque rien.
C'est un sacré sujet, cette fusion froide. En fait, les réseaux sociaux et Internet lui donnent une caisse de résonance fabuleuse, parce que les complotistes sont très facilement tentés d'y croire.
Mais pourquoi est-ce que les complotistes y croient ?
Mais parce que si on savait produire énormément d'énergie avec presque rien, eh bien, les équilibres géostratégiques de la planète seraient totalement transformés. Plus de pétromonarchie et plus non plus d'énormes revenus pour les compagnies pétrolières, gazières ou charbonnières. C'est un monde qui s'effondre.
Donc forcément, si on savait produire une énergie abondante et bon marché, ça irait à l'encontre des intérêts de gens extrêmement puissants qui feraient tout leur possible pour cacher ou décrédibiliser cette découverte.
Avouez que même vous êtes tenté par cette théorie, non? Mais pour commencer, je vais essayer de vous expliquer de quoi on parle.
Oui, parce que c'est quand même un sujet assez complexe. Alors, commençons par le début.
On devrait parler de fusion nucléaire froide, puisque c'est de ça qu'il est question, de fusion nucléaire. Comme je sais que vous n'êtes pas, hyper doué en physique, je vais donc vous faire un petit rappel.
Ouais, allons-y.
Good. Il y a deux types de réactions nucléaires, la fission et la fusion. Dans le cas de la fission, vous prenez par exemple un noyau d'uranium que vous cassez en deux et là, il se passe un truc mais étrange. La masse combinée des deux morceaux que vous obtenez est plus petite que la masse du noyau d'origine. Et cette différence de masse se transforme en énergie. Beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'avec un peu d'uranium, on peut produire beaucoup d'énergie.
Et c'est d'ailleurs ce que font les centrales nucléaires.
Ah oui, en gros. Cette réaction a été découverte à la fin des années 30. On a commencé par en faire la bombe atomique, puis des réacteurs pour produire de l'énergie.
Alors ça, c'est donc la fission. Mais là, vous allez nous parler de la fusion froide.
Bon. Qu'est-ce que c'est que la fusion nucléaire tout d'abord?
Bonne question.
Ouais. Eh bien, c'est un peu l'inverse de la fission. Vous prenez deux noyaux légers, par exemple de l'hydrogène, et vous les collez l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'ils se fusionnent. Ils vont créer un noyau d'hélium. Mais ce noyau d'hélium sera plus léger que la masse combinée des deux noyaux d'hydrogène.
Et là encore, ça crée énormément d'énergie. Mais quand vous dites vous prenez deux noyaux d'hydrogène et vous les collez l'un contre l'autre, on dirait presque que c'est simple et en fait, ça n'est pas le cas.
Ah, vous n'êtes pas si nul en physique que je le croyais.
Merci.
Pas de quoi. En fait, c'est relativement simple, mais dans des conditions bien particulières. Le cœur d'une étoile, par exemple, la température est de 150 millions de degrés et il y a une pression gigantesque. Alors, la fusion thermonucléaire devient presque naturelle. D'ailleurs, en regardant le soleil, on n'a pas l'impression que c'est compliqué.
C'est vrai, mais faire ça sur Terre, c'est une autre histoire, non?
Ouais, en fait, on sait le faire depuis les années 50, mais de manière non contrôlée. C'est la bombe H. H pour hydrogène. Et pour arriver à créer cette situation extrême qui permet la fusion nucléaire, eh bien, la bombe H se sert d'un détonateur assez particulier, une bombe atomique. Tout ceci libère en quelques secondes une énergie colossale, mais pas pour le bien de l'humanité.
Oui, certes. Mais alors, il y a des projets colossaux pour tenter de dompter cette fusion nucléaire, non ?
Bien sûr. Par exemple, le projet ITER en France tente de créer un réacteur à fusion nucléaire. C'est aussi une sorte de quête de Graal. Mais pour l'instant, il faut beaucoup plus d'énergie pour produire la fusion que l'énergie que l'on peut en récupérer. Mais ça, c'est la fusion chaude. La fusion froide, c'est tout autre chose. C'est de la fusion à température ambiante et à petite échelle, dans un tube à essai ou un bocal, si vous préférez. Le 23 mars 1989, la une du Financial Times déclenche une onde de choc. Deux électrochimistes, Stanley Pons et Martin Fleischmann, de l'Université d'Utah, déclarent avoir réussi à obtenir une réaction de fusion nucléaire lors d'une relativement banale expérience d'électrolyse, effectué avec une simple paire d'électrodes.
Vous voulez dire l'expérience qu'on fait à l'école, hein, en mettant des électrodes dans l'eau, ce qui décompose l'eau en gaz, c'est ça ?
Exactement, oui, à l'école, comme vous dites. On décompose de l'eau en oxygène et hydrogène. Mais l'expérience de Pons et Fleischmann était un peu différente. L'une des électrodes était en palladium, et l'eau a été remplacée par l'eau lourde. On passe de H2O à D2O. Le H de hydrogène devient le D de deutérium.
Oui, là je sens que ça devient assez compliqué. Vous pouvez résumer ça de manière simple?
Bon, disons simplement ceci. Leur idée est que le palladium attire les atomes de deutérium, non seulement comme un aimant, mais aussi comme une sorte d'une éponge. Les atomes de deutérium se coincent entre les atomes de palladium et avec la pression due à l'énergie électrique, donc le phénomène d'électrolyse, eh bien, les atomes de deutérium fusionnent.
Ouais, ça, c'est facile à dire. Comment est-ce qu'ils ont pu observer une chose pareille ?
En fait, de manière indirecte, l'énergie sous forme de chaleur émise par le palladium durant leur expérience était 4 fois supérieure à l'énergie électrique consommée par l'expérience. Autrement dit, rien ne pouvait expliquer cette chaleur.
Rien ne pouvait expliquer cette chaleur, sauf une fusion nucléaire froide à petite échelle, c'est ça ?
Et voilà ! Lorsque, en mars 1989, les deux chercheurs font une conférence de presse, c'était immédiatement l'hystérie. À peine 3 ans après l'accident de Tchernobyl, tout le monde espère une nouvelle source d'énergie. Et des centaines d'équipes à travers le monde cherchent à répliquer l'expérience. L'État de Utah, où travaillent nos deux chercheurs, vote un budget exceptionnel de 5 millions de dollars en quelques heures. Et le cours de palladium explose.
L'agent Leslie vient de nous parler de l'expérience de Pons et Fleischmann, une expérience dont les résultats ont été annoncés lors d'une conférence de presse. Cette manière de faire est extrêmement peu habituelle dans le domaine scientifique, où d'ordinaire, les études sont d'abord publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture, comme par exemple Science ou Nature, et ceci avant qu'il y ait une annonce faite au grand public. Cette pratique permet aux comités de lecture, donc ceux qu'on appelle les pairs, donc d'autres scientifiques du même domaine, de vérifier les résultats, de vérifier qu'ils sont crédibles, et d'éventuellement poser des questions aux chercheurs avant de publier leurs résultats. Là, les chercheurs n'ont pas voulu respecter le cadre et leur publication paraîtra finalement le 10 avril, soit plus de 2 semaines après la conférence de presse et ces résultats paraîtront dans The Journal of Electroanalytical Chemistry, donc une revue finalement assez modeste. Dans les semaines qui suivirent cette annonce, l'agent Leslie l'a dit, des centaines d'équipes tentent de refaire la manip de Pons et Fleischmann, mais ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, l'histoire de la fusion froide va passer par Genève.
Le 30 mars 1989, c'est dans la salle de conférence du CERN à Genève que Fleischmann vient présenter ses résultats. La salle est comble. Et parmi les nombreux physiciens présents, un Écossais nommé Douglas Morrison.
Donc un physicien du CERN.
Ah oui, très, très réputé et apprécié. Et pas uniquement pour ses recherches de haute vol. C'est aussi un personnage atypique qui travaille souvent de nuit et qui, dans ce cas, sert à tout le monde le thé de 22 heures. Et puis, au fil des années, il a également développé une sorte de deuxième spécialité. C'est un expert d'analyse de faux résultats. Au CERN, lorsqu'il y a un résultat étrange, on l'appelle pour qu'il trouve ce qui ne colle pas. Il a un nez infaillible.
Et donc, ce Douglas Morrison va s'intéresser à la fusion froide.
Oui, et c'est une sacrée chance, parce que le commun des mortels n'y comprend pas grand-chose à la fusion nucléaire.
Donc, avec Morrison, on a un physicien nucléaire réputé qui va, entre guillemets, enquêter sur la fusion froide.
Il estime d'ailleurs que Fleischmann est un électrochimiste très sérieux. Donc, il écoute la conférence avec intérêt et en sort même enthousiaste. Mais en bande scientifique, il attend la publication pour étudier les résultats dans le détail. Lorsque celle-ci arrive, 10 jours plus tard, il relève une première incohérence. Lorsqu'il y a une fusion nucléaire, il y a forcément des neutrons qui sont émis. C'est la réaction radioactive conséquente à la fusion. Eh bien, Fleischmann et Pons annoncent que la chaleur détectée sur le palladium lors de l'expérience est de 10 watts. Morrison calcule qu'avec un seul watt, l'expérience aura dû produire environ 1000 milliards de neutrons par seconde. Largement de quoi tuer Fleischmann, Pons et tous leurs camarades de jeu. Or, ceux-ci se portent bien et déclarent avoir détecté 40 000 neutrons par seconde, presque rien.
Ouais, donc là, c'est une sorte d'impossibilité physique, en quelque sorte.
Ouais, disons que même si on fait la fusion nucléaire dans une éprouvette, ça là, ne signifie pas qu'il n'y avait pas de radioactivité. D'ailleurs, Morrison notera encore 3 autres miracle dans cette publication originale sur la fusion froide.
Vous dites miracle, comme ça, entre guillemets, c'est-à-dire des, c'est quoi ? C'est des impossibilités physiques, des incohérences.
Oui, oui. Et en plus, les équipes qui, partout à travers le monde, même à Lausanne d'ailleurs, cherchent à répliquer l'expérience, n'y arrivent pas. Le 6 juillet 89, donc 5 mois après le début de cette histoire, John Maddox, le directeur de la revue scientifique Nature, écrit un éditorial au titre assez clair. End of cold fusion in sight.
Donc, la fin de la fusion froide est en vue. C'est donc la fin de l'histoire.
Mais non, c'est ne que le début. Vous le savez, il est facile de faire croire l'impossible à celui qui veut y croire.
Vous le dites souvent, oui.
Si je vous disais qu'entre 2015 et 2018, Google a dépensé 10 millions de dollars à la recherche de la fusion froide, et ils ne sont pas les seuls. Reprenons les événements là où nous les avons laissés. Été 89. La communauté scientifique s'accorde sur le fait que la fusion froide est une impossibilité et que Fleischmann et Pons, dans le meilleur des cas, se sont magistralement trompés et dans le pire des cas, sont des imposteurs. Quoi qu'il en soit, ils sont contraints de démissionner de leur poste à l'université de Utah. Et alors, que va-t-il se passer, à votre avis?
Je ne sais pas. Ils vont peut-être continuer leurs recherches dans leur coin?
Mais pas dans leur coin, voyons. Par un étrange concours de circonstances, nos deux électrochimistes vont se retrouver en France, à travailler pour le Japon. Japon qui décide à investir 30 millions de dollars pour maîtriser la fusion froide.
Alors là, effectivement, c'est assez énigmatique tout ça. D'abord, pourquoi en France?
C'est l'université de Sophia Antipolis qui les accueille, dans un laboratoire de Technova Corporation, une filiale de Toyota. Et figurez-vous que les services secrets français vont tout faire pour simplifier leur arrivée.
Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces services secrets? Pourquoi est-ce qu'ils simplifieraient leur arrivée?
En fait, dans le doute, le fait que la recherche sur la fusion froide se fasse en France était plaisant pour les services secrets. Surtout si c'est le Japon qui paye. Si jamais les chercheurs arrivent à maîtriser la fusion froide, la France ne sera pas la dernière au courant. D'ailleurs, Stanley Pons vit encore aujourd'hui dans le sud de la France.
Bon, alors d'accord pour la France et le Japon. Pourquoi est-ce qu'il investit des millions sur une source d'énergie chimérique?
C'est une bonne question. C'est une sorte de ticket de loterie. Au début des années 90, le Japon sait qu'il n'a pas de pétrole. Et les experts du ministère du Commerce évaluent qu'il y a environ 1% de chances que ça marche. Évidemment, si le Japon était le premier à maîtriser la fusion froide, les gains se calculeraient en milliards.
Oui, mais enfin, ces experts-là qui ont pris cette décision là, du ministère du Commerce, peut-être qu'ils n'étaient pas eux-mêmes des physiciens nucléaires.
C'est bien mon avis. Mais vous savez, encore aujourd'hui, c'est cette idée d'un Graal énergétique absolu et de quelques brevets sur cette technologie qui continue de motiver les investisseurs.
Oui, comme Google que vous mentionniez tout à l'heure. Et pourtant, Google, bah, ce ne sont pas des illuminés tout de même.
Non. Mais ils ont les moyens de s'offrir le luxe d'une recherche qui n'aboutit pas.
Donc ça fait 30 ans hein, que les recherches sur la fusion froide, on va dire, piétinent. En tout cas, personne n'arrive à la maîtriser. Est-ce que ça n'est pas la preuve que ça ne marche pas?
D'un point de vue formel, non. Ça n'est pas une preuve. D'ailleurs, on pourrait dire presque la même chose de la fusion chaude. Les recherches ont commencé bien avant. Et un projet comme ITER coûtera probablement 20 milliards de dollars aux pays qui ont investi dedans, dont l'Union européenne et la Suisse. Et personnellement, j'ai vu prédit que ça ne donnera rien.
Ah oui, on comprend que vous êtes très sceptique, mais peut-être que tous ces gens rêvent aussi de sortir l'humanité d'une addiction aux énergies fossiles qui pose des problèmes énormes, on le sait, notamment au niveau climatique.
Ouais, c'est là qu'à mon avis, les priorités ne sont pas les bonnes. Avec l'urgence climatique, il faut investir sur ce qui marche aujourd'hui, les énergies renouvelables. Pour la fusion froide, laissons ça à nos enfants.
Ben, j'ignorais que vous étiez aussi radical, que vous aviez des positions écologiques tranchées comme ça.
Ah non. Je ne suis pas écologiste, juste réaliste et pragmatique. Et si on veut que nos enfants puissent aussi avoir le loisir de croire à la fusion froide, il faut qu'on leur laisse une planète viable. Et vous savez quoi? J'espère avoir tort. J'aimerais que demain, on annonce que la fusion froide est maîtrisée.
Cet épisode de Mystifica Science a été réalisé par Yves Roulin. Éditeur numérique, Sébastien Blanc. Attaché de production, Annette Kléber. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux.